France Inter.
Il y a une pression des femmes à l'intérieur des femmes. Elles se posent en victime. Moi, je connais beaucoup de filles qui viennent me voir et qui disent « Vous savez, je voudrais faire du cinéma, mais je suis une femme, c'est tellement difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se faire un chemin ?» et tout ça. Je leur dis déjà en disant ça, vous arrêtez le chemin vous-même, arrêtez de vous poser cette question et dites « Je veux faire du cinéma. » Et puis on verra. C'est difficile, mais si vous vous boycottez vous-même, vous n'irez pas loin.
Merci et bienvenue à toutes et à tous. Ce soir, troisième épisode de notre série consacrée à Agnès Varda, l'irrévérencieuse, celle qui se moquait des règles et des contraintes, celle qui a réinventé le cinéma et les arts plastiques, celle qui nous permet de nous donner envie de vivre en sortant de certains de ses films. Aujourd'hui, troisième épisode, Agnès Varda, les femmes et les actrices. En première partie, vous entendrez la voix d'Agnès, puis ensuite un témoignage, celui de Jane Birkin, et en troisième partie, un entretien entre Agnès Varda et Isabelle Huppert, daté du 12 mai 2010. Mais tout de suite, et comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et bien justement avec Jane, les dessous chics.
Dessous chic, c'est ne rien dévoiler du tout. Se dire que lorsqu'on est tabou, c'est tabou. Les dessous chic, c'est une chandelle qui claque dans la tête comme une paire de claques. Les dessous chic, ce sont des contrats résiliés qui, comme des bas résiliés, enfilés. Dessous chic, c'est la pudeur des sentiments, maquillés outrageusement, rouge sang. Les dessous chic, c'est se garder au fond de soi, fragile comme un pas de soie. Les dessous chic, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent désolant. Les dessous chic, c'est des dentelles et des rubans d'amertume sur un paravent décelant. Les dessous chic, ce serait comme un talon aiguille qui transpercerait le cœur des filles.
Mais tout de suite, Agnès Varda.
Je pense que le collage correspond bien à la vie que nous menons et à la façon dont nous recevons les informations. Nous sommes dans le zapping toute la journée. Je crois que tout le monde reçoit en même temps des informations, des images, des publicités, des téléphones, des textos, des machins, des mails et des nouvelles. C'est-à-dire, il n'y a rien de simple et continu comme autrefois. Et donc ce mélange qui nous est proposé par un bombardement d'images et d'informations fait que notre tête aussi, la mienne, fonctionne aussi comme ça par morceaux de puzzle. Et il me semble que tout le travail mental, de se construire un peu, de tenir le bout, tenir le coup, c'est d'essayer que le puzzle se reconstitue peu à peu et que chaque jour arrive à reconstituer un puzzle cohérent ou justement incohérent et donc questionneur. Enfin, c'est vrai que la notion de collage, elle existe aussi dans un autre film qui est un portrait de Jane Birkin, qui s'appelle Jane B. par Agnès V, où j'ai imaginé des facettes, des... Vous savez d'ailleurs, les artistes, au moment du cubisme, ils ont commencé à se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas montrer la face et le profil en même temps? Est-ce que, regardez certaines peintures de Picasso, où il y a un sein quelque part, le sexe de l'autre côté, un bras, une tête, un sein? Je veux dire, ça reconstitue une femme. Donc on n'est pas obligé de le faire dans l'ordre, ni du début à la fin. Ne pas faire dans l'ordre, mais structurer. Et c'est le cas précis de Saint-Ouen-Illois, où c'est pas dans l'ordre parce qu'on la trouve morte tout de suite. Après, on reconstitue qu'est-ce qui a pu l'amener à être morte de solitude, de froid et de tomber dans un fossé. Sandrine Bonner faisait ça très très bien, mais c'était vraiment structuré d'après 13 travelling, de droite à gauche, qui orchestrait les qui tenait. Les films, ils ont l'air comme ça, mais ils sont extrêmement construits. C'est à ça que je passe le plus de temps. La structure me semble plus importante que ce que je raconte. Ce qui fait que là-dedans, je peux déverser, effectivement, du bric-à-brac, du marabout bout de ficelle, celle de cheval, qu'on m'envoie souvent à la tête quand mes films sortent. Mais quand même, ça fait une phrase.
Je l'ai déjà dit, les souvenirs sont comme des mouches qui virevoltent, des bouts de mémoire en désordre.
Tu crois que tu vas t'en sortir, toi ? Entendre que des bouts.
Mais c'est comme quand on fait un puzzle. On pose des petits morceaux par-ci, par-là, et puis ça se dessine doucement, il y a encore un trou au milieu, un vide. Mais ça arrive dans les meilleurs banquets, hein. Il y a tout d'un coup un silence, et quelqu'un dit « Tu veux pas chanter une chansonnette ?»
Chansonnette ? Est-ce beau ?
Si j'hésite si souvent entre le moi et le je, si je balance entre les moi et le je.
Un peu de je, un peu de moi. Je déballe tout en vrac et après je range un peu.
Salut. Tout de suite deux questions. Est-ce que tu aimes qu'on te filme ? Est-ce que tu aimes parler de toi ?
Oui. Oui. Et un peu non. Oui, parce que j'aime le jeu avec le maître en scène. Et ce qu'il veut de moi. Et puis non, parfois, parce que je sais pas vraiment des règles du jeu. Parfois, je veux tout donner. Je veux me noyer pour du vrai. Et puis, ils me repêchent et ils disent non. Il faut du faux. Ça fait trop vrai. Et puis, le contraire, parfois. Avec toi, je savais pas quoi m'attendre. Quelles questions ? Des vrais ou des faux ?
Tu veux boire quelque chose ?
Café, café.
Tu sais, dans les interviews que j'ai vues ou les photos, j'ai remarqué que tu regardes jamais la caméra.
Non.
Pourquoi ?
J'aime pas le trou.
Regarde, il le faut.
C'est embarrassant.
Pourquoi c'est embarrassant ?
Parce que c'est trop personnel.
Mais quoi ?
Parce que c'est comme de regarder dans les yeux. Alors c'est trop personnel.
Et si c'était un miroir ?
Tu regardes toi-même. Toi-même, c'est pas quelqu'un d'autre qui te regarde. Dans un miroir, ce n'est que vous.
Justement. C'est comme si moi, j'allais filmer ton autoportrait. Mais tu ne seras pas toujours toute seule dans le miroir. Il y aura la caméra, qui est un petit peu moi. Et tant pis si j'apparais parfois dans le miroir ou dans le champ.
Oh, mais toi, je veux bien te regarder, mais pas la caméra. J'ai peur que ça soit un piège.
Mais non, c'est pas un piège. Je veux pas te piéger, je veux pas te coincer. Mais au cinéma, c'est 24 portraits différents par seconde ou par heure. Il faut seulement que tu suives la règle du jeu et que tu regardes la caméra le plus souvent possible. Dedans. Il faut que tu regardes là-dedans, sinon tu ne me regardes pas.
J'essaye.
Tu as accepté de faire ce film ?
Oui, chef.
Moteur.
Moi, si j'accepte qu'un peintre ou qu'un cinéaste fait mon portrait, moi, je veux bien être déformée. Mais c'est comme avec toi. L'important, c'est l'œil derrière la caméra, la personne derrière la brosse à peinture. Je m'en fous un peu ce que tu fais avec moi du moment que je sens que tu m'aimes un peu.
Pourquoi tu crois que je t'ai demandé de faire ce film ? Parce que tu es belle. Comme la rencontre fortuite sur une table de montage d'un androgyne tonique et d'une Ève en pâte à modeler.
J'ai accepté de faire l'actrice et aussi d'être ton modèle, modeste. Mais je suis suspicieuse de moi parce que je suis pas sûre que ça soit si modeste que ça.
Tu me rappelles une histoire du temps de mon adolescence. On avait retrouvé une femme dans la Seine et comme elle était très belle, ils avaient fait un moulage de son visage de noyée. On en avait tiré des masques en plâtre. C'était l'inconnu de la scène, et ça se vendait comme des petits pains. Moi-même, j'en avais acheté un, et je regardais son sourire énigmatique, aussi énigmatique finalement que celui de la Joconde, et je me demandais si c'était une suicidée heureuse.
Ou alors si, à la morgue, le type qui avait fait le moulage, il avait tiré son visage figé comme ça pour qu'elle ait un sourire. En tout cas, on ne savait rien d'elle. Et très certainement, à cause de ça, tout le monde pouvait fantasmer sur elle. C'était n'importe qui extraordinaire, une anonyme de choc.
Quelquefois, je me demande si le seul portrait réel, ce n'est pas le masque mortuaire, le visage immobile, de face. C'est ça qui reste de quelqu'un, le visage immobile, de face. Ou alors la photo d'identité, toujours immobile, toujours de face. Muet ou parlant, mais de face.
Nous venons d'entendre la voix d'Agnès Varda, à la fois dans des entretiens et aussi un extrait de ce film, Jane B. par Agnès V. Ce film a été redonné à voir au cours de la rétrospective qui a eu lieu à la Cinémathèque française il y a très peu de temps, il y a quelques mois. Jane, vous aviez, à la demande d'Agnès Varda, accepté de parler avec elle avant la projection de ce film magistral. Nous étions là, il y avait une ferveur du public qui était tout à fait exceptionnelle. Aujourd'hui, Agnès n'est plus, mais son esprit est là. Sa créativité, sa gentillesse, son humour, sa générosité, son inventivité sont là. Et j'espère que ça durera longtemps. Qui était Agnès pour vous?
C'est une extravagance. Rien de que de l'écouter parler maintenant, je me rends compte à quel point elle était surprenant sur ses attitudes, sur son point de vue. Finalement, ses films sont son point de vue. Et la vie avec Agnès, enfin les peu d'occasions que j'ai eues, mais tout de même j'en ai eu quelques-unes, à la fois elle te faisait râler parce qu'elle te réveillait trop tôt le matin, et puis merde, j'avais emmené Lou avec moi, elle avait dit que c'était près de la plage, et pas du tout, et enragée. On part avec elle, mais pour quelque chose qui est forcément une aventure. Je m'en souviens que en allant en Afrique du Nord pour un film, peut-être c'était à cause des films qu'on a fait ensemble, pour une rétrospective pour elle, je pense, avec Chahine, et on est parti. Et l'avion est descendu, bien sûr, pour refueling à Madrid. Ouf, je me suis dit, ça c'est bien, parce que je vais pouvoir foncer vers le First Class Lounge et manger un sandwich et boire un café. Tu y penses pas, dit Agnès, on a juste le temps pour aller à la Prado. J'ai dit, quoi? Alors elle a dit, oui, on peut prendre un taxi à plusieurs. Donc me voilà embarquée pour un taxi avec Lou qui râlait, son fils Mathieu qui râlait et quelques vieilles dames avec nous. Arrivée au Prado, elle disait, j'ai perdu mon groupe au queue de personnes qui étaient devant. Et donc, on a sauté le queue grâce à petite Agnès. Et là, on a foncé pour les Goya, pour les Velázquez. Enfin, une sorte de ravissement d'un après-midi, traînant les enfants, râlant. Et on était rebolote dans l'avion. Quelques heures plus tard, on était sur la plage en train de regarder nos cartes postales et nos catalogues de musées. Et je me rendais compte que la vie avec Agnès était mille fois plus intéressante que finalement ma vie un peu carrée à moi. Une autre fois, je te raconte, on devrait aller à Lyon. Bon, déjà, je voulais pas aller à Lyon, mais si, il fallait, parce qu'elle avait un prix. Ok, on part pour Lyon, mais je me suis dit, chic, on va aller dans le petit hôtel, Novotel, bien cosy, avec un télé et room service. Tu y penses pas, dit Agnès. C'est beaucoup mieux de dormir dans la chambre de Louis Lumière au-dessus du musée. J'ai au-dessus, ils vont pas avoir des rideaux. Et bon, j'ai besoin de mes bouquets et d'un noir absolu pour pouvoir dormir. Mais me voilà entraînée par Agnès, qui était assise sur le bord du lit le matin. J'étais en fait dans le lit de Madame Lumière et elle dans le lit de Louis Lumière. Elle était là avec des croissants en disant, est-ce que c'est pas exquis la vie d'être dans la chambre de Louis Lumière? Et je me suis dit, franchement, c'est vrai, chaque fois que j'arrive à Lyon, je pense à Agnès et à cette aventure qui désormais, grâce à elle, et sans insatiable curiosité, serait plus jamais pareil. C'est une merveille, ça. Et d'être regardée par elle, avec des choses étonnantes qu'elle a sorties. Quand elle m'a fait vider mon sac sur le... J'étais si offensquée, j'étais humiliée, parce qu'on voyait toutes les merdes que j'avais dedans. Et puis, je me suis dit, bon, bah, c'est pratiquement vulgaire, surtout sur les marches de le Trocadéro. Et puis elle a dit, est-ce que pour autant on te connaît? Et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a raison? C'est vrai, juste parce qu'on voit tout ça, est-ce qu'on connaît la personne? Non, pas du tout. Elle avait cette impertinence de regard. Même pour le petit film Kung Fu Master, il y avait ma fille Charlotte qui disait « Oh papa, un chien ». C'était une confession assez quelconque. Hein. Sauf que elle avait bien raison qu'en fait, quand vous êtes séparés, c'est par l'enfant qui passe le week-end avec le père que tu apprends qu'il a un chien, qu'il est avec une fille qui fait les tartes à la rhubarbe, que toutes sortes de petites pointes douloureuses qui arrivent par les anecdotes. Et pour cette multiplicité de regards, il n'y a pas une autre personne comme Agnès. Comme si c'était l'œil d'une mouche qui est multi, qui a toutes ces différentes, comme des petits carrés partout. Enfin, c'est une mosaïque, un œil d'un mouche. Tu as l'impression qu'il voit derrière, devant, à côté, tout à la fois. Agnès, c'est un peu comme ça. Alors, même quand on est fâché avec elle, même quand tu dis, ah, c'est la dernière fois, elle veut quelque chose de moi, non, non, non. Eh bien, irrésistible est cette personne qui finalement dit les choses aussi importantes qu'en regardant un film dans ma maison où elle arrivait pratiquement tous les jours après la mort de ma fille Kate à m'appeler tout de même et parfois se pointer, ce qui était une tendresse tout à fait inattendue de quelqu'un de parfois aussi épineux que Agnès. On regardait ensemble un documentaire sur Grace Kelly. Elle disait, tu savais qu'elle était dépressive, toi? Je dis, non, non, je savais pas. Elle avait l'air si jolie, comme ça, encore plus jolie au mariage, non? Ou peut-être un peu. Et après, elle m'a dit, c'est ce qui me manque le plus, c'est des commentaires. Et finalement, ce qui lui manquait le plus avec Jacques, et ce qu'on peut être en train de dire nous-mêmes en regardant un film seul le soir, c'est ce qui nous manque, c'est pas du tout ce qu'on regardait, c'était les commentaires. Elle était juste dans ses perceptions, de ces toutes petites choses. Peut-être c'est son côté féminin, justement, qui fait que, sur les détails, et j'ai une folie pour les détails aussi, grâce à elle. Je bifurque beaucoup, mais elle aussi. Ses films sont des bifurcations complètes, comme si elle était un aventurier, et que si la route prévue était finalement assez chiant, et chic, il y a un accident. T'es obligé de prendre une voiture de dépannage qui t'emmène ailleurs. Et elle suit.
À un moment, elle vous a élu. Elle vous a élu comme une sorte de double d'elle-même. Quand on revoit Jane B. par Agnès V., on voit bien que vous êtes une muse, un modèle, mais en même temps une source d'inspiration pour ses propres réflexions sur sa propre vie. Et comme vous y faisiez allusion, ce film Jane B. par Agnès V., ça ne lui a pas suffi. Il a fallu qu'elle enchaîne avec ce film très étrange et très profond dans sa cinématographie, qui hélas n'est pas très vu et pas très visible encore, qui est Mister Kung Fu, avec son propre fils Mathieu Demi. Et vous étiez qui, Jane B., avec Mathieu D.?
J'étais l'amoureuse, en fait, parce que j'avais écrit un scénario, un petit... C'était pas si petit, en fait, mais c'était assez romanesque, inspiré par un garçon qui traînait après une fête où les enfants sont venus pour Charlotte, je crois. Et un garçon traînait dans mon salle de bain et puis il m'a demandé si j'avais une Kleenex pour se démaquiller, parce qu'ils avaient tous... Tout le monde était déguisé. C'était un fête déguisé. Et le lendemain matin... Il est revenu avec des fleurs, je crois que c'était pour Charlotte, et non, c'était pour moi. Et puis, c'était la même école que Charlotte, donc je me suis pointée devant son lycée le jour après, pour Charlotte, et c'était lui qui sortait. Et je me suis dit, ça ferait une histoire assez curieuse quand même, d'imaginer qu'ils avaient une affaire tous les deux. Alors, je l'ai écrit, j'avais une fille qui s'appelait Do, donc très inspirée par ma fille Lou. Et tout ça se passait à Noël, où j'embarquais le jeune homme à Londres pour les fêtes de Noël. Et j'ai montré à Agnès, et je pense pas du tout que c'était son tasteté. Je crois pas du tout qu'elle était attirée ni par l'enfance, ni pour une nostalgie de retourner, ni... Mais elle pensait que ça me ressemblait, et donc elle était dans le devoir de poursuivre ce chemin-là, parce que ça dirait plus largement sur moi. C'était une morale d'Agnès, de si elle faisait ton portrait, qu'elle ferait alors jusqu'au bout. Et quand j'ai réclamé Mathieu, son fils, qui avait peut-être 14 ans, elle a demandé, bien sûr, Charlotte. Donc, c'était du tic-tac à la Agnès. Mais quand je voulais mettre les mots dans la bouche de Mathieu, là, elle ne voulait pas, parce qu'elle disait que les adolescents étaient des mystères et que ce n'était pas à nous de dire ce que Mathieu aurait dit à cette dame, qui était donc jouée par moi. Et du coup, elle a fait de la sorte que j'étais amoureuse de lui, mais que lui, il était amoureux d'un jeu vidéo qui était Kung Fu Master, où c'était des jeux qu'on joue dans les cafés. Elle a bifurqué mon histoire pour faire finalement quelque chose qui lui ressemblait à elle. Quand j'ai râlé en disant « c'est pas comme mon histoire, blablabla », elle disait « mais tu n'as qu'à faire toi-même, plutôt que de râler ». Elle avait absolument raison, et du coup j'ai fait « oh pardon, tu dormais », j'ai commencé à faire des choses moi-même, parce que elle était très inspirante. Elle était très coup de pied dans le derrière pour que tu fasses ton truc à toi. Elle était très inspirante là-dessus. Assez mordant, si elle n'aimait pas, ni à faire ni à refaire. Je ne sais pas la façon française de dire cette expression. Ça m'avait blessée. Elle pouvait être blessante sans se rendre compte. Puis je boudais un peu. Puis je disais pourquoi j'étais fâchée, pourquoi ça m'avait blessée. Et du coup, on s'est dit que c'était vraiment trop con de se fâcher pour un truc pareil. Et elle était comme ça, elle disait ce qu'elle pensait. Donc si jamais c'était bien, c'était vraiment bien. C'était pas du faux semblant. Drôle de personnage, vraiment. Très attractif. Parce que finalement, d'être avec Agnès, j'ai rendu compte que même de vieillir, c'était pas grave. Parce que dans sa compagnie, c'était exquis. Elle t'apprenait sur de l'art, elle était jamais... Elle n'était jamais la personne que tu imaginais, son point de vue sur les choses. Parfois, elle était carrée. J'aimais pas trop quand elle soulignait des choses pour que les gens comprennent bien ce qu'elle voulait dire. Parce que c'était plus marrant quand on a cru avoir saisi tout seul sans qu'elle soit maîtresse d'école un peu. C'était son drawback, comme on dit. Donc, elle avait cette fâcheuse tendance de te reprendre pour avoir mal dit un mot. Elle ne pouvait pas s'empêcher. Il y avait quelque chose de... Oui, de maîtresse un peu. Et de sa moralité à elle. Il ne fallait pas violer les gens. Curieusement, elle qui était très forte pour ça, hein, parce que quand même tu dis, tu ne vas pas monter sur scène Agnès, hein, surtout, c'est la première fois que je monte sur scène pour le Bataclan. Hop, elle était là avec l'équipe. Toutes les choses qu'elle avait promis de ne pas faire.
Elle t'a suivi partout.
Partout.
Et elle a filmé tout le temps.
Ouais, pendant un an et demi peut-être. Elle a mis son argent dedans et elle m'a fait bien comprendre qu'elle a perdu son argent et que ce n'était pas du tout comme Santoine Ilois. En plus, elle était marrant sur l'argent, pas marrant du tout. Je lui ai dit, Agnès, si jamais c'est un carton Kung Fu Master, étant donné que j'en étais pour beaucoup pour cette affaire, j'ai dit, si jamais c'est un carton sans plafond, alors on me paye, mais sans... Si c'est beaucoup, c'est beaucoup. Elle a dit, oh non, quand même, il faut un plafond. Je lui ai dit, mais pourquoi il faut un plafond? Étant donné que tu me fais un pourcentage, mais... Elle a dit, pas parce que moi, j'ai tout le bureau à soutenir. J'ai mon compagnie de films, j'ai deux secrétaires, j'ai... Voilà, toi, tu n'as qu'à ta famille. Donc finalement, tu ne pouvais pas gagner sur les sous avec Agnès. Et de mon avis, c'était expliqué pas mal dans Jane B., où on la voit à une table de jeu, et c'était vraiment elle ça, où rien ne va plus, et puis elle perd ses sous. Et je pense que dans cette lieu...
Et vous êtes la croupière.
Oui, mais on n'était pas n'importe où, on était à Knokke-le-Zoute, à l'endroit exact où son père a perdu l'argent de famille. C'était quand même assez révélatrice. Bien sûr, elle était là parce que il y avait des peintures sur les murs de peintres surréalistes belges, Delvaux, qui a fait tous les murales, et que Notre Zout était très joli, etc. Mais c'était pas rien. C'était tout de même ça, la fâcherie. C'était tout de même là, l'angoisse pour l'argent, je pense. C'était pas petit comme affaire. C'était une chose où, honnêtement, elle faisait rouler le baraque et que moi, j'étais une actrice un peu frivole. Voilà.
Alors, Sinéta Marie existe et continue à exister grâce à sa fille, Rosalie Varda, qui s'est beaucoup consacrée à l'œuvre cinématographique et de son père et de sa mère. Aujourd'hui, pour vous, Jane B., que restera-t-il d'Agnès Varda?
Finalement, probablement ce que Rosalie en ferait aussi. Je m'en souviens d'un petit pic de jalousie de Jacques Doyon à un moment donné, où il a dit pour chaque Jacques Demy, il faut un Varda. Et c'est vrai que Agnès a fait vivre les films de Jacques. Bien sûr, il y avait des gens qui adoraient les films de Jacques, mais elle, quand même, elle a fait retaper les copies, les gens à la cinémathèque baissaient les bras tout de suite quand elle arrivait parce qu'ils savaient qu'ils étaient perdus et qu'il fallait donner des sous tout de suite et retaper les copies pour que ça soit magnifique, pour que Jacques Demy ne soit jamais oublié. Agnès a restauré, a gardé Jacques Demy en vie, tout comme elle l'avait volé de l'hôpital pour qu'il meure à la maison. Il y a des moments dans la vie où il vaut mieux être avec un Agnès Varda qui casse toutes les lois, qui vous vole, qui vous met dans votre lit, poussant vers une ambulance louée pour que tu meures à la maison avec tes enfants. Elle n'était pas obéissante. Si on lui disait non, mais ça se fait pas de voler les gens de l'hôpital, elle faisait exactement ce qu'elle voulait. Elle croyait qu'elle avait raison. Je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué jusque-là, mais sauf que si Rosalie ferait de la sorte que les films d'Agnès continuent. Et curieusement, je pense qu'on n'a jamais vraiment fait le tour. Quand il y avait l'hommage à la Cinémathèque quand elle est morte, personnellement, je voulais avoir toutes les interviews d'Agnès quand elle était bien plus jeune, extraordinairement piquante et jolie, assez combatif, avec les réponses pas dans sa poche. Comment plus tard, elle s'est arrondie, elle s'est adoucie un peu. Jeune femme, elle était assez redoutable et c'était formidable. Et ses réponses à propos de Jacques Demy, c'est à mourir. Quand ils ont dit, lui, il était le doux et vous le dur, à peu près ça, elle a dit, et si c'était le contraire? Mais de toute façon, on s'arrangeait. Et c'est absolument juste. Mais on porterait haut Agnès Varda, parce que cette personne d'exception. Quand on a vu un film d'Agnès, on sort enrichi. C'est comme d'avoir bouffé. Enfin, ça c'est un peu grossier de dire une chose pareille, mais enfin, il y a quelque chose où on a plus de vitamines. D'ailleurs, chaque fois que je vois un rayon de soleil, je pense à Agnès qui repoussait ses manches et les miens en disant « Vitamine D, vite !» Donc, c'était une façon de vivre. Et on la portera, on la porterait. Elle me gronderait parce que je ne sais pas si c'est on la portera ou on la porterait.
On la portera.
Ah.
Très haut, très fort dans nos cœurs. Ouais. Merci, merci infiniment. Jane B., on va continuer à écouter la voix d'Agnès Varda dans un entretien qui s'est déroulé chez elle, rue Daguerre. Et j'ajoute que vous allez l'entendre, elle est assez piquante parce que c'était elle qui avait demandé à parler avec Isabelle Huppert, mais elle n'a jamais voulu tourner avec Isabelle Huppert, mais elle a quand même demandé à parler avec elle. Donc vous avez raison, elle est très étonnante.
C'est moi, celle-là, celle qui rit à tout propos, celle qui dit l'amour, c'est beau. Celle qui plaît sans plaisanter, reçoit sans les dédommager. Les hommages des hommes âgés, les bravos des braves gars, les hurrahs, les viens avec moi. Celle qui rit de tout cela, qui veut plaire et s'en tenir là. C'est moi Lola. Thank you. un bateau, v'là un samedi, v'là des matelots. On va tourner, on va danser, on va flirter sans y penser. On va rire et virevolter, mais quand elle met le holà, quand elle leur dit ça va comme ça, tiens-toi bien, moi je m'en tiens là. C'est moi Lola. Celle qui dit bientôt, bientôt et qui sourit dans votre dos, tout enfoncé dans ses pensées de foi. Si vous la connaissiez, un énorme espoir.
C'était la chanson de Lola que vous avez peut-être reconnue, de Jacqueline Dano, écrite par Agnès. Et maintenant, place à l'entretien d'Agnès avec Isabelle Huppert. C'est une archive INA du 12 mai 2010. Un entretien réalisé, comme tous les autres, chez elle, rue Daguerre.
Mais Isabelle, on peut pas dire Huppert. Huppert, ça fait comme ça, ça fait militaire. Mais Isabelle H, ça va bien, non?
Moi, ça me va très bien.
Non, et je trouve formidable que tu aies accepté de venir en sortant de l'avion de New York, ce qui est quand même gentil de ta part parce que tu n'as pas voulu refuser mon invitation, et que tu joues, alors j'allais dire une fois de plus, de façon extraordinaire. Alors c'est un peu fatigant de répéter les superlatifs à ton sujet, donc on va dire que tu travailles bien.
Je ne sais même pas si on peut dire que je travaille bien. Je ne trouve pas qu'on travaille. Quand on a la chance de faire quelque chose comme on le fait, j'ai toujours un petit peu répugné à appeler ça un travail. Mais enfin, en même temps, c'est vrai que c'est du travail quand même. Ah, mais travail, ça porte une ombre un peu négative finalement.
Ouais, c'est pas non plus. C'est tout de même pas des vacances, c'est pas de la rigolade. C'est-à-dire qu'il y a un plaisir de ce travail, on va dire. C'est un travail qu'on aime faire, pour lequel on se passionne. Oui, c'est un peu un travail intérieur, je dirais aussi.
Aussi.
Puisqu'on appelle en nous des forces, des mystères,
voilà,
des choses non dites qui n'ont pas eu l'occasion d'être exprimées, et que par le biais des metteurs en scène de toutes sortes avec qui tu as travaillé, je te connais depuis, j'ose dire, très longtemps. Alors, je sais que tu es jeune et pimpante, mais quand même, il y a très longtemps qu'on se connaît.
Ça fait très longtemps.
Je t'ai connue toute petite, si j'ose dire.
Ici même, d'ailleurs.
Ici même.
Dans Alors, ce salon.
Est-ce que je peux raconter?
Dans ce salon, mais
dans
oui.
Cette pièce
je viens
de travail.
D'y penser à l'instant, c'est drôle.
Moi, j'y ai pensé.
Ah,
je préparais,
mais tu ici,
je préparais,
là.
Voilà. Je préparais L'une chante, l'autre pas, que j'ai tourné en 76. Donc, c'est en 75 que j'ai commencé à rencontrer des unes et des autres. Et j'avais l'idée d'une jeune fille, de deux jeunes filles, une un peu triste qui a déjà deux enfants, qui ne sait pas comment s'en sortir, et d'une pimpante, révoltée, un peu rouquine, et qui soit le ferment de la petite révolution des femmes qui ont voulu prendre leur destin en main. Donc, on m'indique cette jeune fille, et cette jeune fille, Isabelle Huppert, vient me voir. A priori, je la trouve très très sympathique, et comme Gaumont était dans le coup, que Toscan du Plantier voulait un petit peu savoir qui allait être dans ce film, me dit, j'aimerais bien rencontrer cette jeune fille. Donc il vient ici, c'est toujours dans la même pièce.
Ici même.
Ici même, et nous causons tous les trois. J'étais déjà assez drôle, brillante.
Tu trouves?
Oui.
Je n'ai pas le souvenir que
timide,
j'en ai.
Mais timide aussi.
Très timide.
Timide, mais comme les gens intelligents, ils ont des poussées, ils ont des pointes, tu sais, comme des éruptions de boutons, tout d'un coup, et tu disais des choses assez drôles. Sur ce, c'est que Toscan s'en va et nous restons toutes les deux. Et est-ce que tu te souviens de ça?
Oui, je me souviens.
Tout d'un
très
coup,
bien.
Sur le canapé, il avait laissé un petit carnet, un petit agenda avec tous les jours. Et nous voilà toutes les deux comme deux petites chippies à éplucher tous les noms. On se dit, ah, qui c'est cette fille? Qui ça peut être? On était des vrais chippies, hein, là. Je me suis sentie. Alors, bon, à part ce premier épisode, qui t'a fait connaître d'ailleurs Toscan du Plantier, qui semble avoir une grande importance dans ta vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Ben, c'est-à-dire qu'il avait un goût de l'aventure de cinéma, parce qu'il était cinéphile et qu'il a permis à des films incroyables d'exister, qui n'auraient jamais existé. Par exemple, Piala.
Plus maintenant.
Et qu'il a obtenu de Gaumont la main libre. Et grâce à lui, il y a des films magnifiques. Alors, Loulou, par exemple.
Par exemple.
Que tu as fait avec Piala, ce magnifique film avec Depardieu. C'est incroyable comme film. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui se lance dans ça maintenant. Alors, comment si on saute comme ça? Je ne peux même pas sauter de tous les films que tu as fait qui sont. Qui c'est très frappant, c'est que tu as fait, comme Catherine Deneuve d'ailleurs, vous avez ça en commun, et peut-être, Emmanuel, de vous, c'est-à-dire, tu choisis de manière à passer d'un type de film à un autre type de film. Pour faire une sorte d'équilibre, non pas de carrière, mais de mosaïque, et de qui va te voir, qui va aller voir les films. Et tu as fait des films plus secrets que d'autres.
C'est-à-dire que je ne le fais pas en imaginant qui va aller les voir, mais en sachant que ça s'adresse a priori forcément oui, à des publics différents, et surtout pas au même nombre de spectateurs. Mais je crois que c'est important de se dire qu'on ne fait pas forcément des films pour le plus grand nombre à chaque fois.
Évidemment.
Parce que les films ne s'adressent pas nécessairement...
Et dans ton propre parcours, c'est important que tu choisisses tes films, et pas seulement leur carrière, si j'ose dire, à l'avance.
Bah, de toute façon, je n'avais pas le choix. Je ne l'ai pas fait stratégiquement.
Non.
Ou plutôt, c'est une stratégie a posteriori, qui consiste à fabriquer quelque chose à partir de ce qu'on a et de ce qui vous est proposé.
Mais tu as eu des déconvenues. Moi, je me souviens, parce que je t'ai rencontré dans toutes les époques de ta vie et partout, en Amérique, quand tu es parti tourner avec Cimino.
Enfin, c'est surtout lui qui a eu une déconvenue, en l'occurrence. Moi aussi, bien sûr, oui, mais enfin, lui, ça lui a changé son destin. Ça aurait peut-être changé le mien aussi, si le film avait été...
C'était quand même un très grand metteur en scène qui avait fait des grands succès. Tu étais certainement contente, un petit peu flattée d'être demandée.
Tout était tellement démesuré dans ce film que finalement, même l'échec, en tous les cas pour moi, certainement pas pour Cimino, mais même pour moi, j'avais le recul nécessaire pour que, face à l'échec, ça faisait partie de l'aventure d'une certaine manière. Tout était atypique dans ce film, complètement disproportionné. Donc finalement, l'échec fait partie de l'histoire de ce film aussi, je me dis maintenant.
Heaven's Gate, le titre.
La porte du paradis. Oui. Et alors, le film existe aussi avec ce rejet, ce refus. Et c'est drôle parce que là, je rentre des États-Unis et on m'en parlait encore sur le tournage. Alors évidemment, moi je faisais quelque chose autour de la télévision, donc c'est des gens aussi qui n'avaient pas forcément la même approche du cinéma. Mais ça me frappe encore la manière dont on en parle, comme d'un objet complètement non identifié finalement, pour la plupart des gens.
Mais pour revenir au film et aux choses, et au succès ou à l'insuccès, il y a des surprises et des bonnes surprises. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, tu as fait ce film qui s'appelait Home, que j'ai trouvé épatant, de la Meyer, là, la Suisse.
Ursula Meyer.
Et j'ai trouvé intéressant parce que ton rôle est faussement modeste et tu es formidable parce que tu l'as joué comme ça, en retrait, dans ces gens un petit peu moyens, un petit peu cachés, un petit peu planqués. Cette femme attachée à là où elle est, comme ça. D'une certaine façon, une femme neutre.
La proposition du film allait dans ce sens. Tous les personnages sont plutôt des archétypes que véritablement des personnages, de sorte que c'est vrai qu'on était un petit peu retranché derrière la proposition d'Ursula Meyer, mais il n'empêchait qu'au fur et à mesure du film, il y avait finalement des vraies personnes qui émergeaient.
Et puis un sujet qui les rendait peu à peu fous.
Incarnables.
C'est là où on voit les vrais talents, c'est quand des personnes qui sont déjà des stars rentrent dans des films et rentrent comme ça en mezzo voce, très, très discrètement, et tu es discrète dans ce film. Puis évidemment, il y a une horreur qui se met en place. Enfin, c'est un film qui rend un peu fou, même les spectateurs. Je trouve ça passionnant comme film. Mais comme elle n'était pas tellement connue, toi, c'était formidable. Je pense que tu as accepté en partie à cause du sujet.
En partie à cause d'elle. Et puis le film m'a été proposé pendant que je tournais un autre film que j'aime beaucoup, qui s'appelle Nue propriété, que j'ai tourné avec un jeune cinéaste belge. Je ne sais pas si tu l'as vu. Joachim Lafosse, qui est très, très doué. Il va faire des choses formidables. D'ailleurs, on va refaire un film ensemble. Et Ursula est une amie de Joachim. En fait, le film m'a été proposé avec aussi un certain préambule pendant que je tournais Nue propriété. Donc ça a été une période comme ça un peu belgeo-suisse, parce que Ursula vit à Bruxelles, elle est franco-suisse, mais elle vit à Bruxelles. Donc voilà, ça m'a été proposé dans ce contexte-là.
Parler des Belges, c'est mon cœur. Je vais en Belgique le plus souvent possible. D'ailleurs, j'étais il n'y a pas longtemps pour une foire d'art qui s'appelle Art Brussels. Il y a beaucoup de choses. Et alors, dans les rôles comme ça où tu es... J'allais dire surprenante, dans 8 femmes de Ozon, tu es surprenante. Espèce de chippie, mais au point qu'on a l'impression qu'on ne te reconnaît pas, quoi, parce qu'on ne te connaît pas chippie, mais tous les lunettes, le bazar, puis quand finalement, évidemment, c'était normal qu'on te permette de t'éclore à un moment donné, sinon tu aurais été trop sacrifiée avec toutes ces femmes. Et toutes ces femmes sont épatantes.
Le jeu d'Ozon, c'était aussi de, à la fois, travestir les comédiennes d'une certaine manière ou d'extrapoler un peu ce qu'elles sont un petit peu.
peu aussi au fond d'elle-même, c'est-à-dire moi à la fois un peu agressive et mélancolique, Catherine, ce côté comme ça très qui règne sur la famille. Chaque actrice avait une partition à la fois.
Il faut dire que c'est une pièce de boulevard, comme on dit, mais le film était drôlement intelligent.
Ouais,
alors d'avoir regroupé toutes ces femmes, d'avoir réussi ce qu'on appelle un casting, c'était extravagant quand même. Je suis venue à Caen te voir, je ne sais pas ce que c'était.
Pour Hedda Gabler.
Ouais. Je t'ai vu dans Médée, je t'ai vu beaucoup, j'ai aimé te voir dans tes films et dans tes... Et alors, je trouve quelque chose de particulier. Parce que d'abord, on s'aime bien, je crois. On s'est rencontrés dans des circonstances différentes et très souvent.
On voyage souvent.
Et on a partagé des choses amusantes. Par exemple, quand tu étais en Amérique et moi aussi, on a été dans des musées ensemble. On a même été, moi qui ai un goût pour l'art brut et pour les naïfs, comme on dit, on m'avait parlé d'une vieille dame dans une caravane quelque part dans la campagne. On a pris la voiture et c'était une espèce de vieille folle dans sa roulotte qui créait de l'art, tu te rappelles?
Oui, ça m'a rappelé, il y avait un homme comme ça dans la forêt de Fontainebleau qui s'appelait Chaumeau, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, bien sûr,
tu te souviens?
Il y a des grandes expositions de Chaumeau.
Oui, c'était génial, qui faisait de l'art brut, enfin à partir de la récupération. Et cette femme, c'était un petit peu la Chaumeau locale. Elle faisait des choses incroyables à partir de
comme
de
je ne sais pas toujours des photos ni des filmages. Il y a beaucoup de choses dont je me souviens bien, mais j'ai pas de documents de ça. Mais on a partagé des choses comme ça, plus des musées parce qu'on aimait bien ça, et de se voir aussi dans des lieux très différents, à Los Angeles, en voyage, dans de certains festivals. Mais dans les festivals, tu es trop star, tu es occupé. Bon.
On s'est vu à Toronto. L'année dernière.
On s'est quand même vu à Toronto. Toronto en auto, bien sûr.
Tu es très star aussi, Agnès.
À Montréal, en cheval.
Dans les festivals, pas que dans les festivals d'ailleurs, mais...
J'ai un petit trésor national maintenant, moi.
On était à Toronto ensemble, où tu as présenté les plages d'Agnès. C'était une séance extraordinaire.
C'est vrai que c'était le... Ah non, c'était Venise, tu n'étais pas venue. La vraie découverte, c'était au Festival de Venise. Alors là, j'avais embarqué. Oui. C'était... Tu n'étais pas à ce festival.
Non.
Alors, c'était tellement important pour nous, on a tellement travaillé avec Jean-Baptiste qui est là au montage, 9 mois, avec toute l'équipe, que exceptionnellement, il ne voulait pas nous mettre en compétition, Marco Muller. Il a dit, tu as déjà eu un Lion d'or il y a quelques années, ce n'est pas la peine. Il y avait 20 ans avant, mais ce n'est pas grave. Donc, on n'était pas en compète. On était donc très heureux, très calme. Et toute l'équipe, on est parti à 10, j'ai loué un appartement, et deux ou trois ou quatre chambres d'hôtel, et tout le monde était là. Et moi, la fierté que j'ai eue, parce qu'on a eu un accueil incroyable à Venise, incroyable. Et il y avait Rosalie, Mathieu, les enfants bien sûr, mais toute l'équipe de Ciné Tamaris, donc on était 12. Et d'avoir une petite standing ovation à Venise avec toute l'équipe, je me disais au fond c'était eux qu'on applaudissait, parce que pour une fois ils étaient tous là. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'on s'estime beaucoup, je crois que tu aimes bien mon travail, j'aime bien le tien, et la chose est quand même extraordinaire, c'est que tu as tourné.
On n'a jamais tourné
ensemble. Voilà. On n'a jamais travaillé.
Je ne sais pas.
Ben, ça ne s'est pas trouvé. Si... Quand je t'ai proposé L'une chante l'autre pas, en petite rouquine que tu étais, comme dans le film, tu devais être au début la très jeune fille, et 10 ans après, il fallait qu'on te voie 10 ans après, je me souviens de ta réaction, tu as dit je ne veux pas même maquiller, jouer un peu plus âgée que mon âge.
C'est idiot, j'avais 15 ans.
Mais c'est très intéressant, parce que je me souviens pour quelle raison tu le disais d'ailleurs. Mais donc,
pour quelle raison?
Non, c'est privé. Mais tu es privé de toi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit non, parce que je veux bien jouer de mon âge, mais je ne veux pas
déjà
vieillir dans le film, puisqu'on les voyait, on les retrouvait 10 ans après. Bon, alors, ça, on a loupé ce coup-là. Après, ça ne s'est pas vraiment trouvé.
Oui, ça ne s'est pas trouvé.
Et puis, ça ne s'est pas trouvé. Et je me suis dit, en plus, comme tu es, il faut presque écrire pour toi, puisque moi, je n'adapte rien. Je ne viens ni de théâtre, ni de pièces. Donc, j'écris les scénarii que j'ai envie de tourner. Et puis, je me suis éloignée vraiment des scénarios à histoire. Tu vois ?
T'as jamais rien adapté ?
Jamais.
Jamais.
Ah non, oui. Je veux vraiment que ça parte de rien, du désir, d'une idée, de quelque chose. Et le dernier film de fiction, si je peux dire que j'ai fait, c'est Kung Fu Master, qui est un titre idiot d'ailleurs, parce que tout le monde a cru que c'était un film de Kung Fu. Enfin, qui est cette histoire d'amour entre Jane, qui atteignait 40 ans, Jane Birkin, qui atteignait 40 ans, et Mathieu, qui allait atteindre 15 ans. Et j'avais très envie de faire ça parce que Jane avait envie d'une histoire où elle retrouverait sa propre adolescence. Elle avait très très peur de vieillir. C'est marrant parce que, c'est bête même. Elle était splendide, mais elle était splendide à 40 ans. Et, elle avait, et je lui ai dit,
elle
voilà.
Elle est toujours,
hein. Oui, mais elle est différente, parce que maintenant, elle fait exprès de dire, je m'en fiche un peu, je milite, et tout ça. Elle est beaucoup plus militante que comédienne qui veut se mettre en valeur. Ça la rend d'ailleurs éminemment sympathique, parce qu'elle est généreuse, et de plus en plus. Mais à 40 ans, elle était superbissime. Et j'ai réalisé, je ne sais pas si pour toutes les actrices c'est ça, mais elles ont un moment, et j'ai vu beaucoup d'actrices comme ça, vers 38, 39, 40 ans, avoir envie d'être très belle, très mise en valeur, très physiquement en splendeur, avec cette panique de commencer à descendre une pente, d'être moins belle, moins désirée dans le cinéma, etc. Ce qui est souvent très faux. Et j'ai profité de cette fragilité de Jane pour lui faire jouer cette femme qui s'éprend sans s'éprendre d'un petit garçon, lequel petit garçon très fasciné s'éprend aussi d'elle, mais c'était quelque chose à la limite, comme ça, c'est du désir, mais... J'étais très intéressée par le fait que la sexualité ne s'exprime pas toujours par des actes sexuels. Et je trouvais très intéressant de montrer qu'il y a une sexualité très forte qui peut se mettre en place entre des gens d'âges différents. Et tel que c'est écrit dans le film, et ils n'ont pas été au lit ensemble, mais ils ont été comme ça dans cette approche. J'avais été très très émue parce qu'il y avait une scène où ils devaient faire la sieste ensemble, comme ça de jour. Je voulais dans l'île, tu sais, dans la toute petite île où ils étaient partis avec Lou, qui était une toute petite fille adorable, qui poussait des cris. « Maman, maman !» Et alors, ils étaient allés se mettre dans une petite chambre, allongés tous les deux en plein jour. Et je ne savais pas quoi leur faire dire, quoi leur faire faire. Alors, je lui ai dit, « Vous êtes ensemble, vous parlez un peu ou vous ne parlez pas. » Des fois, c'est comme ça, tu sais bien le cinéma. Donc, j'avais mis la caméra, tout ça, très calme et tout ça. Et je crois que je suis même mis dans la pièce à côté pour pas trop regarder. Et alors, elle a eu une ligne extraordinaire. Et elle s'est approchée de lui, comme ça. Elle lui a fait comme ça. Elle lui a dit, « Oh, c'est triste, je ne serai pas là le premier jour où tu te raseras. » Tout des fois, c'est une très belle ligne, parce que c'est encore un enfant. Et elle a eu des larmes aux yeux. Et Mathieu, le petit Mathieu, qui avait 14 ans et demi, il a mué de voix ce jour-là, à cet instant-là. Il lui a dit, « Ne pleure pas. » Avec une voix basse qu'il n'avait jamais eue avant. Et ça, c'est tellement beau quand il se passe quelque chose qui est inscrit dans le corps des gens, dans leur vie. Et c'est quelque chose que j'ai retenu du respect qu'on doit avoir de qui sont les acteurs et comment ils peuvent amener dans un rôle écrit, préparé, et tu le sais parce que tu as tourné avec des gens qui t'ont laissé cette chose-là.
Confiance.
Confiance et puis désir que tu laisses échapper justement ce qui n'a jamais été dit, ce qui n'a été fait.
Et toi, pourquoi Isabelle ne bouge pas physiquement? Pourquoi elle reste cette éternelle adolescente que tu as rencontrée?
Il y a 3-4 raisons. C'est parce que sa petite tête fonctionne assez vigoureusement et
c'est dingue parce que là, les auditeurs ne la voient pas, mais
elle fait très attention à sa forme.
17-18 ans.
Oui, mais ça, c'est une actrice, c'est son capital aussi. C'est son outil de travail. Hein. Le corps, pour une actrice, c'est essentiel. Et ton outil de travail, ben, tu l'entretiens bien. Non, mais enfin, excuse-moi, tu aurais 10 kilos de plus, tu serais peut-être une charmante femme de je ne dis pas quel âge. Mais tu serais un peu plus plump, comme disent les Américains, et tu pourrais pas jouer les rôles tout à fait juvéniles que tu fais.
Voilà.
D'où régime.
Non, mais je ne fais pas
particulièrement.
Elle fait pas de régime.
Mais non, ben, tu rigoles. Je t'ai vu manger, tu manges rien. Tu manges comme un petit oiseau. Donc tu es comme un petit oiseau. Mais c'est très bien. C'est très bien.
Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a. Oui. De maîtriser son corps.
C'est de maîtriser son corps et de ne pas renoncer. Parce que tu n'as jamais renoncé. D'abord, tu as eu des enfants, parce qu'il y a des actrices. Ah, j'aurais pu, j'aurais dû, j'aurais pas dû. Ben voilà. Et puis tes enfants grandissent. Et ça, c'est une beauté aussi de voir ça. Enfin, je pense pour toi aussi, pour moi aussi.
Bien sûr.
Et de les voir s'exprimer. Et ta fille qui rentre dans cette carrière particulière, difficile, elle veut être artiste aussi.
Elle est actrice.
Ben oui. Et c'est très amusant d'avoir cette idée qu'il y a comme des gènes et des chromosomes de J'appelle ça désir d'artiste, parce que tout ça, c'est des artistes, tu sais. Les acteurs, les actrices, les peintres, les cinéastes, quand ils ne sont pas des gens où, juste pour le fric ou la carrière, ce sont tous des artistes. Moi, je me suis toujours sentie comme une artiste cinéaste. J'ai des films qui n'ont pas marché, beaucoup de films comme... Certains, pas beaucoup ont marché. J'en ai eu qu'un qui a très bien. Mais toi, tu les as pratiquement tous vus, mes films.
Oui. Je crois pas que tous, peut-être.
Mais quand même, tu as suivi de près.
Ah oui, j'ai suivi régulièrement, mais je n'ai peut-être pas vu... Je ne suis pas sûre que j'ai vu La Pointe Courte.
Enfin, ben oui, tu serais excusable. C'est un bijou de cinémathèque.
Un film fondateur. Brother, where have you gone? See how serious you have become.
playing martyr and executioner in the name of your absent father, or so you climb. Brother, what have you done? Take a knife and shooting at your sons. Why so threatened by the trivial? Why so cold and literal? Or so it seems. 'Cause we need function. Yes, we need hope. Give us time. Against whom these walls? Don't you know that all that rises shall fall? And no bricks shall ever dissuade. See us climb above the barricades once again. Hey sister, where are we heading? Well, lonelier than ever, just look at us trying. Is insane. We're all convinced we're losing the game, or so we're told. 'Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us times and mystery. 'Cause we need song. Oh, give us. Yes, we need hope. Give us times and mystery. 'Cause we need song. Oh, give us times. We need love and innocence. 'Cause we need fiction. Yes, we need hope. Give us time. Give us times. We need love and
Et c'est avec Brother de Lou Doyon que nous allons nous quitter ce soir, en espérant vous retrouver pour le 4e épisode de notre série consacrée à Varda. Ce sera demain Agnès et l'art, avec Hervé Chandès, directeur de la Fondation Cartier, et Christian Boltanski. Merci à Anne-Sophie Dazard et à Jean-Baptiste Audibert. Merci à Élodie Royer et à Lilian Allôme. Élodie pour sa recherche dans les archives, et Lilian qui a réalisé Demain de Maître, cette émission et toutes les autres. Et merci aux éditions Arte pour le coffret des documentaires d'Agnès Varda et pour tous les autres films. Après le prochain journal, Mishka vous attend pour son nouveau voyage, son very, very good trip.